Et au menu de notre club cet après-midi, l'arrivée d'un nouvel hebdo avec de la science à l'intérieur, des lettres d'animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes et les mots disparus de Pierre Larousse. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui on va percer les secrets de la domination planétaire des plantes à fleurs.
Et oui, puisqu'une équipe de chercheurs californiens pense avoir compris comment les fragiles plantes à fleurs ont colonisé le monde entier en seulement 150 millions d'années. Une histoire de taille qu'on vous raconte avec le biologiste François Parsi.
Et c'est Fanny Bouillon qui réalise aujourd'hui ce club qui a été préparé par Thomas Kalevitch et qui est en direct et en public avec les élèves en journalisme scientifique de l'université Paris Diderot. Et que je salue, et qui sont très en forme d'ailleurs.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue également les invités de notre club, Constance Poniatowski, Thierry Mandon, Alain Bougrain-Dubourg et Jean Pruvot. Bonjour à vous quatre.
Bonjour. Bonjour.
Constance Poniatowski, Thierry Mandon, aujourd'hui sort donc dans les kiosques le premier numéro de l'hebdo, nouvel hebdomadaire papier sans publicité et qui refuse de coller à l'actualité. C'est assez gonflé quand même hein, comme idée dans le contexte de la presse actuelle, Constance Poniatowski. Hein.
Bien sûr que c'est gonflé, ouais. Mais il faut l'aide de toute façon pour faire une telle aventure. Mais on pense aussi que bien que la presse ait des tas de qualités aujourd'hui, elle est quand même partie à des hauteurs où tout le monde ne la comprend plus forcément. Mm-hmm. Et il est pas mauvais de revenir peut-être à des choses essentielles, de redonner des repères et redire ce qui fait la vie de tout le monde tous les jours et de pas être entre parisiens et médias, vous voyez.
Thierry Mandon, je rappelle que vous avez été secrétaire d'État chargé à l'enseignement supérieur et la recherche dans le gouvernement de François Hollande. La science, évidemment, du coup, dans Hebdo.
Oui, la science... diffusion de la connaissance scientifique la plus large possible. Une infusion de la science partout où c'est possible dans le journalisme,
ouais.
Mais surtout, ça va vous intéresser, finalement, transposer au journalisme ce qui se fait dans la recherche en matière de science participative.
Ouais.
Parce que l'ADN d'Hebdo, c'est la participation très étroite, l'articulation très étroite entre nos lecteurs, on a 8000 pré-abonnés, et la rédaction, et finalement une rédaction qui est irriguée en permanence par les lecteurs.
Et on en parlera ensemble dans un instant sous l'oreille attentive de nos jeunes journalistes scientifiques. Alain Bougrain-Dubourg, vous êtes le président de la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, et vous publiez « Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes », c'est aux éditions Les Échappées. C'est donc le cochon, la tortue, le tigre des cirques qui prennent la parole ?
Oui, parce qu'au fond, j'ai pensé qu'il y avait par bonheur beaucoup d'avocats pour défendre la cause animale, bien qu'elle progresse si peu.
Ouais.
Et on le constate dans ce livre. Et je me suis dit que si on donnait la parole aux animaux, bah, peut-être que ça marcherait mieux. Voilà.
Bon, on va les entendre dans votre voix.
On flirte avec l'anthropomorphisme.
un petit peu. Jean Pruvot, vous êtes lexicologue et vous venez nous présenter les mots disparus de Pierre Larousse, publiés aux éditions Larousse, évidemment. Ce sont tous les mots oubliés du 19e, à l'époque où vivait justement le père du célèbre dictionnaire.
Oui, c'est une sorte de soustraction entre ce qu'on trouvait dans le grand dictionnaire universel et ce qu'on trouve aujourd'hui dans le Petit Larousse. Mm-hmm. On voit qu'il y a des mots, évidemment, qui ont disparu. Alors, c'est un peu pour nous empêcher de siester, ne pas s'acagnarder et être de douce à courtise, hein. C'est, je crois, c'est ça, finalement, qui va donner un petit peu de sel à notre langue, lui donner un peu de profondeur aussi.
Et donc, grâce à vous, nous allons enforcir notre vocabulaire. Hein. Ça fait partie des mots du 19e, rendre plus fort. Allez, on se retrouve tous ensemble dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Et à la une de la science aujourd'hui, la success story évolutive des plantes à fleurs.
Vous disiez ? Oh, je suis ridicule. Les fleurs ne peuvent pas parler.
Je regrette, mais vous faites erreur. Nous savons parler.
Et nous savons aussi chanter.
Nous allons chanter Un matin de mai fleuri. Cette chanson parle de toutes les fleurs. Ulysse, donne-nous le la.
Voilà, si les plantes pouvaient parler comme dans Alice au Pays des Merveilles, eh bien elles pourraient peut-être nous raconter comment, il y a 150 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, les plantes à fleurs ont petit à petit pris le contrôle de toute la planète jusqu'à représenter aujourd'hui 95% de la flore sur tous les continents. Une équipe de chercheurs californiens pense avoir compris justement une partie de leur secret et on en discute avec notre invité Axel.
Oui Mathieu, on est en duplex depuis Grenoble avec le biologiste François Parsi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire physiologie cellulaire végétale du CEA. Alors, cette success story des plantes à fleurs, qu'est-ce qui la rend vraiment si impressionnante ? C'est ce laps de temps ou il y a autre chose ?
Il y a plusieurs
Il y a plusieurs caractéristiques qui font que les plantes à fleurs sont absolument exceptionnelles. D'une part, elles ont colonisé, comme le disait Mathieu, la planète entière. Et puis, ce qui a beaucoup étonné Darwin, c'est qu'en fait, elles sont apparues de façon relativement brutale. C'est-à-dire qu'on n'a pas de traces d'événements antérieurs. Et puis, d'un coup, on les voit sur Terre, on en voit partout. On voit beaucoup d'espèces dans tous les espaces.
Darwin se posait déjà la question de cette énigme des plantes à fleurs ?
Ah oui, Darwin, c'est lui qui lui a donné son petit nom, hein, l'abominable mystère, dans une lettre écrite à son collègue Hooker. Il trouvait que cette apparition brutale et cette radiation très rapide étaient pour lui inexplicables.
Alors, cette étude américaine n'est évidemment pas la première à tenter de répondre à la question. Qu'est-ce que pensent avoir découvert ces chercheurs de San Francisco ?
Ce que ces chercheurs proposent, c'est que la réduction de taille du génome qui a eu lieu chez les premières plantes à fleurs, elle soit en partie responsable de leur succès dans l'évolution.
Ça veut dire que la quantité d'ADN dans la cellule de la fleur est responsable de son succès ?
Alors, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, avec moins d'ADN dans le génome, ça permet d'avoir des plus petites cellules, et donc d'avoir des feuilles qui sont couvertes de vaisseaux qui peuvent transporter l'eau, et couvertes de pores qui peuvent faire les échanges gazeux avec l'atmosphère, et que ça, c'est la clé pour une photosynthèse très efficace.
C'est quoi ? C'est un avantage évolutif ? On pourrait le dire aussi comme ça ?
Ah, tout à fait. Ça serait un avantage évolutif, c'est pouvoir avoir une photosynthèse qui permet d'entrer en compétition avec les plantes qui existaient avant eux, les fougères, les conifères par exemple, et de réussir mieux.
Alors, cette réduction du génome, comment ils ont fait pour la déterminer ? Ils n'ont pas trouvé du génome de plantes d'il y a 150 millions d'années, on imagine ?
Non, ça, on ne sait pas encore le faire. Hein. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle des inférences, c'est-à-dire qu'ils regardent les plantes existantes et en les comparant, en connaissant leurs liens de parenté, ils essaient d'en déduire les caractéristiques de la plante ancestrale. Si vous voulez, si tous les frères sont frisés, on en déduit que le père est sûrement frisé. Et puis, si tous les cousins le sont, alors le grand-père l'est peut-être.
Est-ce qu'on sait à peu près à quoi ressemblaient les premières de ces plantes à fleurs ?
Alors ça, il y a eu une étude assez remarquable qui a été faite par un biologiste français qui s'appelle Hervé Sauquet de Paris Sud, qu'il a publié récemment. Et en fait, lui, il a fait ça avec les caractéristiques morphologiques et il a tenté de reconstituer le portrait de cette première plante à fleurs.
Alors, vous avez vous-même travaillé sur ce génome de la première plante à fleurs, vous avez publié l'année dernière, je crois. Est-ce que vous validez ce travail des Américains ? Ils ont percé le secret des plantes à fleurs ?
Oh, là, je crois qu'on peut pas aller si loin quand même. Disons, je pense qu'ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. On savait que les feuilles des plantes à fleurs, elles avaient des caractéristiques exceptionnelles. Et sans doute, le génome, ce petit génome, a pu jouer un rôle. Maintenant, on peut pas oublier que le succès des plantes à fleurs, c'est avant tout dû à la fleur et non pas seulement aux feuilles comme ils le proposent.
François Parcy, pour aller un petit peu plus loin, justement, dans le fait d'avoir un génome plus petit que les autres, ça donne quoi comme type d'avantage, alors concrètement, pour ces plantes ?
Donc eux, ce qu'ils proposent, c'est que ça fait des cellules plus petites et donc ça fait un pavage de la feuille, c'est-à-dire qu'on peut avoir des échanges gazeux extrêmement efficaces parce qu'il y a des tas de petits pores qu'on appelle les stomates. Et comme on perd de la vapeur d'eau, il faut aussi la faire remonter cette eau. Et donc on a aussi des tissus vasculaires, des vaisseaux qui sont très nombreux. Et donc eux, ils relient directement la taille du génome, la petite taille des cellules et le fait que ces petites cellules permettent de couvrir la surface des feuilles.
Est-ce qu'aujourd'hui encore les plantes à fleurs ont des plus petits génomes en comparaison du reste du règne végétal ?
Ça, c'est une très bonne remarque, hein, parce que, en fait, en moyenne, oui, les plantes à fleurs ont des petits génomes. Mais si on regarde la diversité des tailles du génome chez les plantes à fleurs, certaines d'entre elles ont des génomes très grands. Le maïs a un grand génome, pas aussi grand que le pin, par exemple. Mais le maïs ou le tabac ont des grands génomes. Donc, il existe une grande diversité, et pourtant, ces plantes à fleurs-là se débrouillent très bien.
Alors, Charles Darwin ne connaissait pas du tout l'ADN et la génétique. Qu'est-ce qu'il aurait dit devant ce type d'étude ?
Je pense que Charles Darwin, s'il avait pu avoir une petite entrevue de l'hérédité de l'ADN, il aurait été complètement fasciné. Il aurait pu prolonger sa théorie et lui donner corps, vraiment. Mais il a eu une intuition quand même qui est relativement géniale avec le peu de données qui étaient essentiellement des données botaniques et des données fossiles dont il disposait.
Merci beaucoup en tout cas François Parcy pour cet éclairage. Vous êtes biologiste et directeur de recherche au laboratoire physiologie cellulaire et végétale du CEA et vous étiez donc en duplex des studios de France Bleu Isère à Grenoble. Merci à vous et très bon week-end. Et Axel, merci. On se retrouve lundi.
Merci, à lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la plus vieille tombe de prince Sith découverte dans la vallée de Loujouk en Sibérie à partir d'images satellites. Arzan Zéro, c'est son nom, devient donc le plus grand tombeau découvert à ce jour, construit par ces peuples indo-européens d'Eurasie. Les fouilles préliminaires indiquent que les poutres qui composent la chambre funéraire datent du 9e siècle avant notre ère. Très isolé, le marais dans lequel il est situé laisse penser aux experts qu'il n'a pas été pillé. C'est une chance, surtout s'il contient autant de trésors que le tombeau voisin découvert précédemment évidemment, et qui était rempli d'une grande quantité d'objets précieux. Des araignées mangeuses d'araignées, des arachnologues américains ont analysé plusieurs centaines de spécimens de cet étrange groupe des araignées pélicans, ainsi nommées en raison de leur ressemblance avec les oiseaux. Leur technique de chasse est elle aussi originale puisqu'elles empalent leurs consœurs sur de longs crochets et les maintiennent à distance jusqu'à ce qu'elles meurent. Cette étude publiée dans la revue Zookase décrit 26 espèces différentes dont 18 jamais répertoriées avant. Majoritairement trouvées à Madagascar, elles vont aider les spécialistes à mieux comprendre leur évolution. La photo étonnante de cette araignée pélican est sur le Facebook de La Tête au Carré. Et puis pour finir la semaine, une image rare, des anneaux translucides de Saturne avant sa désintégration programmée dans l'atmosphère de la planète en septembre dernier. La sonde Cassini a envoyé plusieurs images de cette dernière et de ses satellites naturels, comme en témoigne un cliché pris en février 2016 et qui représente les anneaux de Saturne comme un voile translucide de glace et de roche. On y aperçoit également une des nombreuses lunes de la planète Pan, située dans la division d'Encke des anneaux. Une image qui, elle aussi, est à retrouver sur le Facebook de l'émission. Allez, c'est le club dans un instant.
Une ville brûlée par le soleil. Une ville au-dessus tel le ciel.
Voyage organisation, c'était Goma.
La Tête au Carré, le club.
Au menu de ce club, l'arrivée d'un nouvel hebdo avec une bonne part de science, des lettres d'animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes et les mots disparus de Pierre Larousse et mes invités pour en parler, Constance Poniatowski, Thierry Mandon, Alain Bougrain-Dubourg, Jean Pruvot et vos messages. Vous nous rejoignez en direct sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. On commence donc avec l'arrivée aujourd'hui dans les kiosques de l'hebdo EBDO, pas de H pourtant pour cet hebdomadaire papier format poche, sans pub, vendu 3,50€ avec des reportages, des enquêtes et de la science évidemment, c'est ce qui nous a intéressé et qui justifie votre venue cet après-midi. Et ce slogan, lisez-nous, lisez-vous. Conscience Poniatowski et Thierry Mandon, est-ce que d'abord aujourd'hui, mercredi, vous étiez... Non, on est vendredi. Est-ce que vous étiez comme le mercredi lorsque sortent les films devant les kiosques pour voir si Hebdo se vendait déjà, Constance?
Moi, j'étais Gare du Nord, où il y a pas mal de kiosques et beaucoup de monde toute la journée, parce qu'il y a aussi beaucoup d'arrivées de RER. Et j'ai fait le tour. Et bon, c'est... à la fois excitant, et puis on se dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va en acheter un devant moi? Et puis, je crois qu'il y en a qui en ont. Oui, ça a été le cas.
Est-ce que vous l'avez dit à cette personne?
Mais évidemment, mais dans ce cas-là, vous pouvez pas vous empêcher de dire, c'est moi qui le fais, et de lui dire de faire des retours aussi, parce que c'est ça qui est important. C'est aussi que les gens qui lisent un magazine vous fassent des retours, et j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler après. Ouais. Le lecteur est vraiment au centre notre journal.
Thierry Mandon.
On avait des lecteurs, des journalistes aussi partout en province, à Lyon, à Marseille, à Lorient, qui étaient dans les kiosques aujourd'hui. Et on avait 350 de nos pré-abonnés, des gens qui nous font confiance avant même que le journal existe, qui sont allés démarcher, voir les kiosquiers, voir les magasins. Parce que nous souhaitons être couverture la plus large possible du territoire.
Et puis, il faut dire que vos lecteurs sont aussi ceux qui ont financé ce projet, qui ont permis en tout cas son existence. Donc, ils s'y intéressent aussi à double titre.
C'est le sens de la phrase que vous avez dite. Je vous le disais tout à l'heure, on essaye de faire finalement ce que les sciences font avec les sciences participatives. On pense que nos lecteurs, nos futurs lecteurs, peuvent participer vraiment à identifier des sujets, des gens, des expériences, héberger des journalistes chez eux, bref, être vraiment en irrigation permanente de la rédaction. Et donc, ça demande un travail qu'on fait par le numérique. Et c'est comme ça que ce slogan « Lisez-nous, lisez-vous » a une réalité. C'est un journal authentiquement, entre guillemets, participatif.
On va écouter justement la campagne qui avait été diffusée sur Internet à l'automne et qui faisait appel justement à la contribution de vos futurs lecteurs.
Hebdo, c'est votre journal. Un journal papier à l'âge du numérique, avec une rédaction indépendante et zéro publicité.
Dans Hebdo, on va vous parler de choses complexes, mais aussi de choses simples. Vous dire pourquoi le soleil est jaune et comment éplucher une tomate. Vous parler de la mémoire de votre corps, mais aussi de celle qui est stockée dans votre ordinateur. On va vous parler de vous.
Grâce à vous, un grand journal va naître. Le vôtre. Rejoignez la communauté des lecteurs d'Hebdo.
Voilà, Constance Poniatowski, c'est votre voix d'ailleurs qu'on entendait.
Je suis sûr qu'il est en train de parler de la couleur du ciel, du soleil, très bizarre. Mais enfin,
alors, cette campagne de crowdfunding, elle a bien fonctionné ou pas?
Elle a formidablement fonctionné. Elle a duré 5 semaines, c'est ça Thierry? Mmh. Oui. Et il y a eu 4 000, entre 4 000, vous voyez, j'étais qu'à 4 000.
700 000 abonnements.
Abonnements avec 400 000 euros de gens, juste sur ce qu'on a raconté là et sur l'idée qu'on allait faire un magazine. Alors, sans pub, je crois que c'était important. Et aussi un magazine avec le lecteur qui revenait au centre d'un magazine. Ouais. Je pense qu'aussi ça leur a fait envie.
Alors, sauf qu'il nous raconte quoi ce magazine? Parce que moi, je prends la une aujourd'hui, Hebdo, donc couverture rouge, bien accrocheuse, avec SNCF l'intouchable, comment l'entreprise publique échappe à la justice. Ça, c'est votre coup aujourd'hui. Créer un nouveau journal, ça veut dire évidemment faire une proposition qui n'existe pas. Quelle est cette proposition, Thierry Mandon?
C'est un journal, d'abord, qui s'adresse à tout le monde. Les hebdos aujourd'hui sont quand même centrés sur ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles élevées, les CSP+, c'est l'effet induit de la publicité qui s'intéresse aux gens qui ont les moyens de consommer. Donc premièrement, ça s'adresse à tout le monde. Deuxièmement, c'est un peu tous les styles que rend possible le papier, puisque c'est papier, il n'y a pas de version numérique. On l'achète chez le marchand, en kiosque, chez le marchand de journaux, ou on s'abonne, mais il n'y a pas de numérique. Donc vous avez de l'actu, mais pas toute l'actu. Les gens sont informés, quelques sujets qu'on traite sur le fond. Beaucoup d'enquêtes et de reportages, par exemple la SNCF.
Qui a été fait d'ailleurs ce reportage avant les événements de la gare Montparnasse, par
Absolument.
Exemple.
Absolument. Et c'est typiquement le genre de reportage que vous ne pouvez pas lire ailleurs, parce que la SNCF, c'est le premier annonceur de France.
Et il se trouve qu'on dévoile la façon dont la SNCF s'y prend pour n'être jamais responsable de rien.
Ils ne peuvent pas faire de pub chez vous, mais s'il n'y en a pas.
Donc nous, on peut le faire, mais tous ceux qui ont de la pub sont quand même plus ennuyés pour faire ce genre de reportage. Puis après, vous avez de la BD, de la photo, et beaucoup de rubriques aussi.
Ouais. Et le côté scientifique, Thierry Mandon, alors l'ancien ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, voulait absolument qu'il y ait de la science dans ce journal papier.
Enfin, c'est pas moi personnellement, tout le monde voulait ça.
Je confirme, il y tenait essentiellement.
D'abord, des sciences. C'est-à-dire, naturellement vient à l'esprit, c'est-à-dire les sciences dures. Là, ce numéro traite de l'intelligence artificielle, par exemple. Mm-hmm. C'est d'expliquer les choses. Il y a une bande dessinée sur ce que sont les antioxydants, mais aussi des sciences humaines et sociales. Ouais. On a une rubrique historique chaque semaine dans le numéro. On a cette semaine un article sur la sociologie et sur l'interprétation sociale des rêves par Bernard Laïf.
Ouais. Vous avez des signatures, Toby Nathan aussi. Hein,
Toby Nathan.
Qui fait partie des scientifiques qui
Tout
peuvent collaborer
fait,
à ce journal.
Tout à fait, Toby Nathan. Et là, il écrit sur l'amour, mais enfin, c'est une sorte de science aussi.
Oui, absolument. Et les loups, faut pas oublier les loups, parce que c'est scientifique aussi.
Mais ça, je l'ai fait exprès, parce que je savais qu'Alain Bougrain-Dubourg était là aujourd'hui. Voilà, donc, je me suis dit, il faut absolument mettre un sujet sur les loups.
C'est ça.
L'idée, c'est de prendre chaque semaine sur 12 à 14 pages quelque chose, j'allais dire, de la vie quotidienne. Alors, évidemment, le loup n'est peut-être pas dans la vie quotidienne de tout le monde, mais en tous les cas, quelque chose qui parle à tout le monde. Mm-hmm. Ça peut être quelque chose de la table, comme on parlait de la tomate, le sel, ça peut être les cheveux. Là, c'est le loup, parce que d'abord, c'est assez fascinant, et que rien que la photo en quatrième de couverture qui nous sert aussi de sommaire, d'accroche, est belle. Et puis on s'est rendu compte qu'il y en avait presque 500. Je parle sous le contrôle.
En France, un peu moins.
Qu'ils remontaient, alors même si ce sont des poches qui remontaient quand même pas mal vers le nord de la France.
Et puis il y a des expériences aussi à l'étranger. Hein.
Vous et des expériences, dont celle absolument fascinante de Yellowstone avec cette cascade trophique. C'est-à-dire qu'au fond, le loup a rapporté la vie d'une certaine manière dans tout le parc de Yellowstone, et on a eu la chance d'avoir une journaliste qui a pu aller un jour justement où elle a vu les loups qui étaient en train de traquer un cerf. Je vous rassure, le cerf s'en sort. Mm-hmm. Mais ça veut dire qu'on ouvre et on essaye sur un sujet basique de trouver quelque chose qui soit n'a pas encore été raconté, soit a été raconté dans des journaux spécialisés. Et pour un généraliste, ça nous permet d'apporter à la portée de tout le monde
Est-ce que c'est pas gênant justement pour vous de ne pas avoir de cible très précise au fond, avec l'écueil d'aller un peu sur tous les territoires?
C'est à la fois une liberté absolument gigantesque, et la possibilité, et comme vous le dites, d'aller sur tous les territoires. Je pense qu'à partir du moment où on sait qu'on veut aller là où les autres ne vont pas forcément, qu'on veut redonner des repères, redonner l'essentiel des choses, redire, le loup c'est quoi, le berger ce qu'il pense du loup, pourquoi ça pose des problèmes, on revient à la base pour que ça soit accessible au plus grand public.
Ouais, et vous citez dans l'édito d'ailleurs ce savant réputé qui aimait dire, Thierry Mandon, en dehors de mon domaine, j'ai 14 ans.
Oui.
J'aime beaucoup cette phrase aussi, d'ailleurs, parce que c'est vrai, au fond. Hein.
D'abord, c'est vrai. Et donc, on fait cet effort de pédagogie, entre guillemets, populaire. Et puis, c'est bien qu'il y ait un titre qui ait pour objectif de rassembler. Sous pression du numérique, sous pression de la publicité, les médias cultivent des segments de population. Et on est vite dans l'entre-soi, entre jeunes, entre CSP+, entre parisiens. Mmh. Et la fonction de la presse, c'est quand même de faire débat le plus largement possible dans la société. Donc qu'un média hebdomadaire, qu'un journal hebdomadaire s'adresse à tout le monde, c'est, je crois, une grande chance. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire.
Constance Poniatowski, la source, qu'est-ce que c'est?
La source, c'est, on parlait tout à l'heure de lecteurs qui revient, et pourtant il devrait être au centre de tous les magazines, mais nous on veut vraiment l'y mettre, et la source c'est le moyen pour lui d'arriver au centre de notre magazine, c'est-à-dire que la source a été ouverte pour que non pas nous mettions nos papiers sur le net et que ça aille du haut vers le bas, mais pour qu'au contraire les lecteurs nous fassent remonter tout ce qui est leur vie, c'est-à-dire leur expertise, leur témoignage, les paroles. Vous verrez à la fin du journal, il y a tout un espace qui s'appelle Paroles, où on a des témoignages de gens qui sont juste venus écrire quelque chose qui leur tenait à cœur. Cette source alimente déjà et alimentera le journal en permanence.
Alors, peut-être que plus tard, vous aurez également dans votre rédaction un des jeunes journalistes scientifiques qui est en train d'apprendre son métier en ce moment à Paris Diderot, à l'université, dont Benoît, qui va vous poser une question. Bonjour.
Bonjour. D'abord, bravo pour ce projet. Hâte de vous lire. Je voulais juste savoir si il y a le plus grand distributeur de presse qui a eu des gros soucis ces deux dernières semaines. Est-ce que quel impact ça va avoir chez vous.
Alors Thierry Mandon, puisque vous êtes le directeur général de ce groupe d'édition Rollin Publications qui justement publie Hebdo.
Alors, très concrètement, ça n'a pas de conséquences aujourd'hui pour la distribution. Tant que les mouvements sociaux ne se réveillent pas, il n'y a pas de raison qu'il y ait des conséquences. En revanche, la question de la distribution de la presse, c'est-à-dire le chemin qui sépare l'imprimeur et la rédaction du lecteur, c'est un sujet qui mérite aujourd'hui une analyse très profonde. Des missions sont menées au ministère de la Culture, parce que ce système est très ancien, il a été sédimenté et il est un peu à bout de souffle.
En tout cas, il y a des dossiers que vous pourrez peut-être traiter inspirés par le livre d'Alain Bougrain-Dubourg, parce qu'il y a deux sujets au moins sur la protection animale, Alain. Vous posez cette question, pourquoi la France possède autant de grands instituts de recherche et pourquoi pas plus de mesures prises justement dans le sens de la protection animale ?
Oui, quand on regarde l'engagement de la France par rapport au reste des pays européens, par exemple sur le thème de la protection animale, on voit qu'on est vraiment en retard. Les cirques, par exemple, il y a un paquet de pays européens qui se sont engagés. Il y a quelques villes en France à arrêter d'utiliser des animaux sauvages sous les chapiteaux, mais on n'y arrive pas. On le voit, la manière dont on traite les poussins que l'on broie, c'est interdit dans d'autres pays. Les cochons que l'on tue en les envoyant contre des murs, ça s'appelle la cloison thérapie, il faut quand même le faire. Et c'est interdit dans d'autres pays, on pourrait multiplier les exemples.
On en parlera avec vous tout à l'heure. Thierry Mandon, parce que vous devez nous quitter, vous allez partir dans quelques instants. La politique terminée pour vous aujourd'hui ?
Je pense que c'est dans la société que les combats se mènent aujourd'hui.
Ouais. C'est plus réjouissant de faire de la presse que de la politique ? On est plus efficace avec une arme de presse ?
Je pense que la société est beaucoup plus mûre que le débat public le laisse penser, et aider cette société à acquérir des savoirs, des compétences scientifiques, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, par exemple, c'est un très bel objectif de changement.
Est-ce que vous suivez attentivement celle qui vous a succédé, Frédéric Vidal, la secrétaire d'État ?
Très bonne ministre, d'ailleurs, de mon point de vue.
C'est vrai ?
Si vous me demandez mon avis, ce qui n'était pas le cas, mais je vous
Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour valoriser plus les scientifiques, les carrières scientifiques et les étudiants qui se lancent dans toutes sortes de carrières ?
Ah, c'est simple, très simple, il faut remettre de l'argent.
Oui, c'est ça le problème. Vous en avez mis quand vous étiez au gouvernement.
Depuis 12 ans, la plus grosse progression du budget, 700 millions, j'en étais l'artisan. Et je pense qu'il faut faire ça pendant 5 ans.
C'est pas suffisant pour revenir au niveau
qu'on avait il y a quelques années. Voilà, il faut remettre des sous.
Thierry Mandon, merci beaucoup. Et puis, Constance Poletowski, vous restez avec nous.
Avec plaisir.
On va poursuivre. Et puis donc, aujourd'hui, dans les kiosques, Hebdo, E-B-D-O, lisez-nous, lisez-vous. C'est le premier numéro et on vous en souhaite encore beaucoup. Dans un instant, Alain Bougrain-Dubourg.
Said your heart was just a rubber band, and you can't stretch it anymore. You crossed your arms across your chest, you hid your body to protest, and dived into the floor. You said, how can you be in there? We are gotta pick a place. And I should be, but I don't mean take away the things you've seen. But baby, let me tell you, I can travel space. Said I'd love to sing this tune, but all of this is all too soon. Boy, you better teach me how to sing. And you put your arms across the side, showing me where God resides. And you dived into the flower again.
love green and I love blue. There ain't nothing I can really do about it. All I know is to walk through, not around it. That's a song worth singing now.
Voilà, Assaf Avidan avec Green and Blue.
La tête au carré, le club, sur France Inter.
Alain Bougrain-Dubourg, vous êtes également avec nous cet après-midi dans ce club avec ces lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes aux éditions Les Échappées. Alors vous faites parler 16 animaux pour dénoncer leurs conditions de vie, le comportement des éleveurs et d'ailleurs plus généralement notre comportement aussi à nous tous. Un livre qui se termine par une lettre plus large à l'animal que nous sommes. Est-ce que d'abord, pour reprendre un peu ce que vous disiez tout à l'heure, vous n'avez pas quand même le sentiment qu'on vit une époque où la condition animale est en train de changer dans le bon sens quand même?
Oui, tout à fait.
Vous dites c'est très lent en France, on fait pas grand chose, mais quand même là depuis 4-5 ans ça bouge.
Les relations entre l'homme et l'animal, c'est historiquement un rendez-vous raté. On aurait pu imaginer une cohabitation au niveau religieux, des religions monothéistes. Et ben l'animal est resté sur le côté. Dans le siècle des Lumières où la science va s'imposer et on va effacer l'obscurantisme, on aurait pu penser que l'animal se serait rapproché de l'homme. J'ai envie de dire mai 68, rappelez-vous, c'était peace and love, tous ouverts à la nature, on pouvait l'imaginer. Ben ça a pas marché. Et en fait, en ce début de siècle, je pense que grâce à des associations comme L214 et à des images insoutenables, alors qu'on a toujours voulu mettre le couvercle sur la marmite pour échapper à ces images, eh bien là, on les prend pleine poire et on est obligé de bouger le curseur. Donc j'ai espoir et je crois que on va progresser sur la condition animale avant de progresser sur le déclin de la biodiversité. Croyez bien que je le regrette. Il y a deux grands thèmes qui marchent aujourd'hui. C'est la question climatique, même s'il y a un climato-sceptique célèbre outre-Atlantique. Bon. Et c'est la question animale. J'ai bon espoir. Le vivant qui nous entoure, qui est un déclin. Il y a quelques semaines, l'appel des 15 000 scientifiques est resté. Il y a eu un très beau papier dans Le Monde. Basta. Mais attends, on parle de notre avenir. Pour moi, rester indifférent à l'égard du vivant qui agonise aujourd'hui, c'est un crime contre l'humanité, puisque ça nous touche directement à terme.
Et en ce qui concerne la protection animale, ça passe forcément pour vous aujourd'hui par des images choquantes, pour faire bouger les consciences?
Oui, parce qu'on veut pas voir. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le citoyen, vous voyez, avec votre hebdo, vous parliez de la science participative, je crois qu'aujourd'hui, il y a une participation du citoyen prodigieuse, un potentiel exceptionnel, et le citoyen a plus de pouvoir en étant acteur de la consommation qu'en mettant un bulletin de vote dans une urne.
Constance Poniatowski, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi qui ne suis pas une scientifique et loin de là, mais je pense qu'effectivement, à travers des publications, se sentir concerné, ça commence, mais très très tôt, et moi même sur les sciences je vois qu'il suffit de tirer un petit fil pour intéresser le plus grand nombre, alors que tout le monde derrière le mot science, les gens se disent oh là là c'est compliqué, mais en fait ça commence, c'est au quotidien qu'on peut le faire. Donc je rejoins tout à fait Alain Bougrain-Dubourg.
Alors sur la question animale, on a justement une de nos jeunes journalistes scientifiques qui nous a rejoint du Master Paris Diderot. Bonjour. Quel est votre prénom?
Nastasia.
Alors Nastasia, une question pour Alain Bougrain-Dubourg.
Oui, Monsieur Bougrain-Dubourg, vous dites que la cause animale a beaucoup d'avocats, effectivement, mais que en France, elle progresse très peu. Et vous compariez justement avec d'autres pays. Comment expliquez-vous ce retard de la France ?
La puissance des lobbying. Je suis désolé de le dire, mais le monde du cirque, par exemple, quand il y a la question des animaux sauvages dans les cirques, a un pouvoir colossal. Le monde cynégétique peut geler la France avec quelques fusils, même s'il y a de moins en moins de chasseurs. La FNSEA sur les méthodes d'élevage industriel s'impose encore avec une autorité surréaliste, même s'il y a des états généraux de la consommation qui nous permettraient de revisiter un peu les méthodes. Voilà, les lobbies. Et il y a un manque, il y a vraiment un manque de courage politique en face de tout ça. Alors, c'est la société qui doit faire bouger les curseurs et les politiques seront obligés de changer les choses pour le bien-être de la société en général.
Mmh. Jean Pruvot, vous qui êtes un homme des mots, puis un homme d'édition aussi, hein, puisque vous occupez de ces éditions Honoré Champion, le 19e, puisque c'est l'époque dont on va parler avec Pierre Larousse, c'était aussi la grande époque de l'édition naturaliste. Hein. Il y avait énormément de livres à cette époque.
Oui, c'est-à-dire dans le sillage de Buffon, il y a eu d'un côté énormément de livres. Et puis alors, on évoquait tout à l'heure aussi l'étymologie du mot « bête ». Il y a eu aussi un énorme effort concernant l'étymologie. Alors, bête, ça vient de bestia. Mm-hmm. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça a voulu dire bête féroce au départ.
Voilà.
Et puis après, ça a pu se dériver, puisque passant par le portugais, on a eu le mot biche qui nous est arrivé.
Ah, oui.
Et qui, avec bouc, comme il y avait bouc, ça devenait bic. Donc on voit bien qu'à partir d'une racine, en fonction de ce que les hommes veulent en faire, eh bien, on peut faire évoluer les choses. Et dans le fond, ce que Alain Bougrain-Dubourg fait, c'est aussi faire évoluer les mots.
Bah écoutez, sur le thème du mot, par exemple, je suis étonné que quand un homme a un comportement inqualifiable, on dit qu'il est bestial.
Ouais.
On dit pas qu'il est inhumain.
Ouais.
Enfin, c'est quand même extraordinaire.
Oui, oui,
voilà.
Oui.
C'est un exemple, entre autres.
Alain Bougrain-Dubourg, on parlait des loups tout à l'heure. Il y a toujours ce problème d'opposition qui semble irréductible hein, entre ceux qui veulent défendre les loups et puis les éleveurs ou les bergers. Il y a une lettre d'un loup à un berger, justement. Ouais. Et puis, dans Hebdo, parole d'un berger.
D'un berger qui dit que ce sont eux l'espèce à protéger.
Absolument.
Oui,
absolument.
Oui, mais alors, tout le problème, enfin, on va peut-être pas ouvrir le dossier qui est vaste.
On a très envie de recevoir des mails pendant tout le week-end. Alors, allez-y.
Le dossier loup.
Appuyez sur le bouton. Le problème, c'est que, en vérité, le loup, c'est le bouc émissaire d'une question totalement différente. C'est François Mitterrand qui, au lendemain du Rainbow Warrior, a ouvert le marché des carcasses de brebis en provenance de Nouvelle-Zélande pour arranger nos relations. Et d'un seul coup, le prix de la carcasse, il est tombé. Et vous pouvez tuer tous les ours, tous les loups, tous les lynx que vous voulez. Vous ne sauverez pas les bergers face au marché actuel. Voilà. Alors maintenant, on va pas tirer sur les loups n'importe comment. Il y a une commission de travail qui est initiée par le ministère de la Transition écologique.
Voilà, j'ai vu qu'il y avait une quarantaine qu'on pouvait éventuellement tuer d'ici l'été 2018, mais pas plus. C'est-à-dire qu'il y a un nombre très limité.
C'est beaucoup trop. Et c'est ridicule de tirer dans le... Vous tapez dans une meute. De façon inconsidérée, vous allez faire éclater la meute et il y aura des attaques encore plus nombreuses. En revanche, je conçois fort bien qu'on tire sur des loups avec des tirs dits de défense. Quand un loup a attaqué plusieurs fois un troupeau, eh bien, bien sûr, il faut s'en défendre, il n'y a aucun problème.
Alain Bougrain-Dubourg, vous évoquiez François Mitterrand, vous me tendez une perche pour une transition, pour parler de l'ortolan, puisque vous nous adressez une lettre de l'ortolan au braconnier. Mitterrand était quand même très célèbre pour être un consommateur d'ortolan. Et on va écouter justement cet extrait d'émission en 97 avec Carl Zéro qui interviewait Henri Emmanuelli. France 3 Aquitaine qui rediffusait le sujet.
Diverses parutions nous ont appris ces derniers jours que François Mitterrand dégustait volontiers des ortolans lors de ses séjours dans les Landes.
Vous savez, pour avoir des ortolans, c'est très compliqué.
Comment vous faites ?
Il y a un camarade qui est agriculteur dans les Landes et qui est chasseur d'ortolans et qui, tous les ans, me donnait des ortolans pour le président. Voilà le mystère des ortolans.
Alors, Alain Bougrain-Dubourg.
Écoutez, je trouve ça scandaleux parce qu'au nom de la tradition, on ne respecte pas le droit. L'ortolan est une espèce protégée qui, de surcroît, est en déclin.
Oui.
Et ne pas respecter le droit, notamment par le président de la République, et puis ça a suivi, hein, les tolérances juste derrière. Alors maintenant, c'est fini. On a gagné devant les tribunaux.
Oui.
Et c'est la première année où il n'y a pas eu de braconnage, quasiment pas de braconnage.
Pourtant, depuis 99, l'ortolan est inscrit sur la liste des espèces protégées.
Oui, voilà.
Et jusqu'à cette année, c'était 30 000 ortolans
par an
qui
étaient capturés. Et alors après, on les laissait dans le noir, on les engraissait.
On leur crevait les yeux.
Autrefois, moins maintenant, on les laissait dans le noir maintenant. Et on les tuait en les noyant dans l'Armagnac.
Voilà. C'est épouvantable ce que vous dites.
C'est odieux, c'est inacceptable. Et puis ça affecte une espèce qui est fragile. Le Muséum National d'Histoire Naturelle a rendu un rapport là-dessus.
Mmh.
Voilà, on respecte le droit.
Jean Prévost ?
Ben oui, en plus, disons que l'étymologie du mot ortolan, c'est ortolanus, c'est-à-dire horticole, c'est le jardin, donc c'est délicieux.
Oui.
Donc on a là quelque chose qu'il
vous
faut respecter.
Vous plaidez pour l'ortolan ?
Je plaide
pour le consommateur.
Non,
pour
l'ortolan,
celui qui le mange.
Vivant, sauvage, dans son jardin.
Bien sûr.
Après, dans les mots disparus, du côté des animaux, dans la rousse d'autrefois, il y avait le caméléopard.
C'est quoi ?
Qui était très joli. C'était la girafe.
Ah, exact.
Voilà, donc camé, qui est le chameau.
Du reste, elle est
de la famille.
Voilà.
Tout à fait.
C'est notre mémoire, Jean Prouveau. C'est-à-dire que dès que vous avez besoin d'un mot, vous l'avez avec vous et il a la réponse absolument à tout.
Il y avait la louveterie aussi, mais oui, ça existe toujours.
Alain Maugret-Dubourg, un mot sur les livriers espagnols. Ça aussi, ça fait partie des choses, mais inimaginables aujourd'hui. Chez nos voisins espagnols, il se passe des choses tous les ans avec ces chiens.
Alors,
qui sont,
ça se passe dans le sud de l'Espagne et les livriers sont des formulins de la jante animale.
60 km heure.
Voilà, 70 km heure. Même, ils ont une vision extraordinaire. Ils peuvent localiser une proie à 300 mètres, un lapin par exemple. Et les chasseurs, ils sont à peu près 150 000 dans le sud de l'Espagne, ont ces lévriers et les chassent. Si le lévrier est mauvais à la chasse, c'est une humiliation pour le chasseur. Il va se passer un truc mais incroyable au XXIe siècle. On va se venger sur le chien. Et donc, on va le jeter dans un puits, on va le pendre, par exemple, en laissant juste le bout des pattes pour qu'il puisse encore s'appuyer, qu'il agonise plus longtemps. On va en faire une cible, on va organiser des combats de chiens. Mmh. Il y a à peu près 50 000 chiens qui sont récupérés chaque année par des associations admirables et on en récupère en France.
Et tous les ans, c'est la même chose.
Et tous les ans, c'est la même
inouï.
Chose.
C'est absolument dément. Inouï. Dément. Nastasia, une dernière question ?
Oui, vous êtes maintenant, depuis peu, président du conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité.
Excellent, mon petit bouchon.
C'est bien
son métier, oui. C'est pas l'orientation, c'est le COS. C'est l'orientation stratégique.
Oui, voilà. Conseil d'orientation stratégique, exactement. Et donc, quel lien faites-vous entre la recherche sur la biodiversité et la cause animale, puisque vous êtes dans les deux domaines?
Ben, figurez-vous, là aussi, c'est une bonne question.
Moi, je serai toujours Constance Poniatowski, je signe tout de suite.
Elle est engagée.
Très bonne journaliste.
Eh bien, vous avez raison, il y a toujours eu deux avancées parallèles. La condition animale d'un côté, la connaissance de la biodiversité de l'autre. Il n'y a qu'un endroit où elles se sont réunies, on avait eu les SPA, Fondation Bardot et autres, auprès des naturalistes, c'est pour la défense de l'ours dans les Pyrénées. Le reste du temps, chacun... Or, moi je plaide pour une communion. J'estime qu'il faut oublier les quotas, les espèces, les... Voilà, quand on parle... Il y a des êtres vivants. J'ai vu l'Erika avec 150 000 oiseaux en train d'agoniser avec le poison noir. Je vois la souffrance et donc, vous avez raison, il faut conjuguer les deux.
Allez, Alain Grain-Dubourg, donc l'être des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes, c'est aux éditions Les Échappées. Vous restez avec nous dans un instant. C'est Jean Prouveau avec les mots de Pierre Larousse, les mots oubliés du 19e.
Et ses réponses à vos questions. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions? Serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression? Mon cri sert de silence aux fossoyeurs de compassion, aux mijaurés de la suffisance, aux incendiaires de l'unisson. Quand un sourire décède d'avoir souri à l'opinion, à cette soupape, cette sainte attelle, j'aurais pu encore dire non. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions? Serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression? Ou bien l'oppression? Ou bien l'oppression?
sanglots de l'amour ou de la haine, qui donc aura bon dos? Juste cri de guerre, pas en faux frère, mais en son nom, je donne ma main à l'enfer, sous au crachat ma rédemption. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions, serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression?
La sentinelle, c'était Luc.
La tête au carré, le club.
C'est un méchant livre que tu me lis, je ne l'aime point.
C'est l'encyclopédie Larousse, c'est très complet.
Avec Mathieu Vidard, sur France Inter.
Ah ça c'est très... C'est quel film d'ailleurs ça, Fanny ? Les Visiteurs, voilà, avec la voix de Valérie Lemercier et Jean Pruvot, lexicologue qui est avec nous. Vous enseignez à Cergy-Pontoise, vous dirigez le Master Sciences du Langage et le laboratoire CNRS Lexique Dictionnaire Informatique. Et donc, vous venez nous présenter ce livre, Les mots disparus de Pierre Larousse. Vous avez présenté ce livre avec une introduction de Bernard Cerchilini, c'est chez Larousse, évidemment. Ça fait plaisir de vous retrouver, d'ailleurs, parce qu'on a commencé à France Inter ensemble
exactement,
il y a plusieurs années maintenant.
C'était
pour les matinales du week-end, exactement. Voilà. Et vous étiez venu déjà pour nous parler de Pierre Larousse.
Déjà pour parler de Larousse et de la fondation de la maison, c'est le centenaire, c'est 1952.
Ça. Absolument. Ces mots disparus donc aujourd'hui, dictionnaire qui reprend les mots oubliés. Qui était Pierre Larousse? Rappelez-nous un petit peu le personnage, Jean Pruvot.
Alors, Pierre Larousse était un bourguignon, il est né donc en 1817, sa maman était aubergiste, son père était forgeron. Donc dans ce milieu très vivant où il y avait des rouliers qui déposaient des livres, il a été très vite repéré par son instituteur et qu'il a présenté au concours, premier concours d'école normale. La loi Guizot venait d'arriver en 1833, il est reçu et le voilà donc normalien pour les instituteurs, à Versailles, parce qu'on n'avait pas encore eu le temps, en Bourgogne, d'installer dans le département une école normale. Et puis, très vite, il redevient instituteur, se passionne pour les mots, les enseigne, monte à Paris, comme on disait, en diligence. Là, fait partie de l'Institut Geoffrey, où il est maître de pension, et il lance son premier ouvrage, qui est la lexicologie des écoles, et on est donc en 1849.
Qu'est-ce qu'il y avait dans cet ouvrage?
Alors, dans cet ouvrage...
C'était déjà un dictionnaire?
Alors c'était dans le fond la grammaire à partir des mots. Parce qu'on faisait plutôt de la grammaire pour apprendre le latin. Donc là, c'était la grammaire pour tout le monde, pour tous, instruire pour tous. Et donc, derrière, puisqu'il y avait la grammaire, il fallait ensuite un dictionnaire. Et en 1856, il crée le premier petit dictionnaire, l'ancêtre du Larousse, du petit Larousse d'une certaine façon. Et derrière, alors là, ce dictionnaire fait 714 pages. C'est déjà avec des locutions latines à la fin, presque des pages roses. Et puis après, il y a le grand dictionnaire universel. Alors là, c'est 15 volumes, c'est 20 000 pages. C'est 500 millions de signes, donc c'est quelque chose de colossal. Ouais. Et à partir de là, la maison est fondée. Il meurt avant la fin de l'ouvrage, mais la maison Larousse va continuer de prospérer. Et ce qui est beau, d'une certaine façon, dans le même esprit, instruire pour tous.
Et en 1952, en France, on fête le centenaire de la création de la librairie par Pierre Larousse. Et on écoute cette archive de l'époque.
Le dictionnaire Larousse a 100 ans. Une brève cérémonie destinée à commémorer la naissance de son auteur s'est déroulée dans la petite ville de Toucy, dans l'Yonne, où un jour d'octobre 1817, le grand encyclopédiste français vit le jour. Sans doute pourrions-nous facilement retrouver son ombre studieuse dans cette classe d'école primaire. Mais pour nous, la vie de Pierre Larousse commence vraiment dans la pénombre des bibliothèques de Paris, où chaque soir, après 4 heures, il polissait déjà avec amour les mots du vocabulaire français.
Voilà, le sculpteur de la langue française.
Très émouvant, Jean belle Pérou, formule.
Alain Baudrin-Dubourg.
Une question justement, c'est lui qui va rédiger les premières définitions ou
il rédige la lexicologie des écoles de part en part, le fait relire d'ailleurs à celle qui deviendra son épouse. Ensuite, le nouveau dictionnaire de la langue française tout petit, mais enfin 714 pages quand même, il le rédige tout seul. Alors évidemment, les 20 000 pages du grand dictionnaire universel, il se fait aider, mais il relit quasiment tout et on voit le style de Larousse. Il lui arrivait parfois de payer deux fois ou trois fois le même article quand quelqu'un venait et qu'il était pauvre. Et donc, bon, là, on se disait, allez,
c'était un type bien.
Oui,
c'était un bon patron de presse.
Il était très apprécié pour ça aussi.
Alors, on a Melvin qui est lui aussi étudiant en journalisme scientifique et qui, voilà, va vous poser une question sur un sujet qu'il n'avait pas préparé. C'est un autre type d'exercice, hein, Melvin. Alors, quelle est ta question?
Absolument. Bon, merci beaucoup, Mathieu. C'est bien dommage parce que c'était une question qui aurait été tout à fait adressée également à un ancien ministre de l'enseignement supérieur, mais je pense que vous pourrez y apporter une réponse. On parle beaucoup de l'appauvrissement de l'enseignement du français, et notamment du vieux français, je pense que c'est quelque chose qui est décrit comme en péril. Pourtant, dans la plupart des zones qu'on considère comme... populaires, en tout cas qui ont mauvaise réputation au niveau justement de cet enseignement de la langue française, il y a peut-être une langue française ancienne qui émerge plus facilement, que ce soit de l'argot, que ce soit des mots qui sont issus de plusieurs cultures. Et je voulais savoir votre position par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que l'enseignement du vieux français, il est finalement nécessaire, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est cyclique? Est-ce qu'une langue doit tourner comme ça, doit évoluer en permanence?
Alors, il y a d'un côté les professeurs de lettres qui effectivement sont confrontés à l'enseignement, à l'apprentissage de l'ancien français, ce qui est pas pareil que le vieux français. Après, il y a l'histoire des mots. L'histoire des mots, elle commence en gros à partir du 9e siècle, quand la langue française est constituée. Et cette histoire des mots, eh bien, il est bon que les dictionnaires l'enregistrent, il est bon de les garder. Je suis toujours désolé quand on jette un petit Larousse, ça n'a aucun sens. Ouais. Il est de 1950, il est de 1930. Ah bah
évidemment, vous gardez tout, mots, vous avez 10 000 dictionnaire chez lui, alors évidemment.
Et souvent, eh bien, on retrouve quelque chose de très agréable, de très sympathique, ouais, et qui donne de la chair aux mots. Donc, alors, quand on parle des zones défavorisées, il y a aussi des efforts du côté du rap. Moi, je reconnais que dans le rap, il y a des trouvailles, il y a des mots anciens qui reviennent, des mots d'argot, et que c'est quelque chose qui est très positif aussi.
Jean Prouvot, justement, dans ces mots disparus de Pierre Larousse, parce que c'est quand même l'objet de ce livre chez Larousse, il y a des mots, donc, qui étaient présents à l'occasion de ce premier dictionnaire. C'est quoi la proportion, ceux qui ont résisté, qui ont passé les décennies, et ceux qui ont vraiment disparu?
Oh bah, c'est une grande majorité quand même, on a plus de 90% qui restent. Donc évidemment, des mots disparaissent, mais en même temps que les objets. Hein, c'est évident que daguerréotyper, qui était ce qu'il y avait de plus moderne pour prendre une photo, n'existe plus. Et quand justement Pierre Larousse dit qu'un bon lexicographe, c'est-à-dire un auteur de dictionnaire, doit daguerréotyper la langue, photographier la langue, aujourd'hui on ne le comprend plus. Il disait aussi, c'était plus joli, que le lexicographe doit être comme un valet, il doit suivre ni trop loin, ni trop près son maître, qui est la langue. C'est-à-dire pas tout de suite prendre le dernier mot, attendre un peu, mais en même temps pas attendre que tout le monde l'ait en bouche.
Ouais. Quand on fait de la presse, justement, aujourd'hui en 2018, Constance Poniatowski, est-ce qu'on a un souci particulier de la langue française, du mot? Est-ce que finalement, on s'adapte un petit peu aux réseaux sociaux avec une certaine indulgence, on va dire?
Être indulgent, c'est bien, mais je vais vous dire, on a un vrai parti pris. Si on veut être accessible et dire les choses de façon claire, à garder la langue la plus claire possible, avec les mots les plus simples possibles.
Oui.
Ça ne veut pas dire, évidemment, de jamais employer de mots d'anglicisme, parce qu'on sait bien que c'est très difficile. Mm-hmm. Mais non, clarté et accessibilité, y compris
sont les mamelles mots. Sont les mamelles de la presse.
Y compris dans les mots, surtout, vraiment. Ouais. Oui. Et le rap, je vous rejoins si vous disiez sur le rap, parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Et
qu'on est c'est-à-dire que quand nous chantions en anglais, les jeunes chantent en français.
Mais il y a une grande
alors
poésie dans le rap aussi.
Alors ils introduisent des mots arabes, bon, qui passent ou qui ne passent pas. Mais peu de mots anglais, contrairement à ce qu'on imagine.
C'est
il y
pour
en
ça.
A,
c'est
il y en
ça.
A peu.
Il y a fashion,
peu.
Par exemple, c'est marrant. Oui. C'est pas un mot oublié, ça, fashion.
Alors, c'est pas oublié,
non,
mais il n'est plus dans le dictionnaire.
Et alors,
high life, par exemple, c'était très utilisé au 19e siècle. On parlait de la high life, de manière un peu snob.
Et de la
snob
fashion.
Mot anglais. High life, plus personne ne le dit. Donc, il y a comme ça quelques mots anglais, ça nous surprend.
Ouais,
qui, effectivement, étaient à la mode au 19e.
Cuisse madame, mouche bouche, zinzolin, grippe minot, difficultueusement.
Cuisse madame, si je pouvais l'employer, je vais essayer de le glisser dans un prochain numéro.
C'est un fruit, le cuisse madame.
Alors, c'est une poire.
Oui, justement.
C'est une poire.
C'est un type de poire.
Bon. Un type de poire.
Moi, ce qui m'a...
Je connaissais pas ce crassade, mais...
Oui, alors, il y en avait d'autres encore, Montréal, etc. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a des mots qui pourraient encore exister, dépersuadés. C'est-à-dire faire changer d'avis, défâcher, arrêter de se fâcher, dépocher quand je vois quelqu'un dans la rue qui est miséreux, dépocher, donner quelques sous.
Sortir de sa poche.
Allez, il nous reste 30 secondes. On fait le pari de poser une dernière question avec notre étudiant en journalisme scientifique. Voilà, top départ. Alors, bonjour, quel est ton prénom ?
Lucien.
On t'écoute.
Alors, les langues évoluent, mais il y a des Français aussi qui divergent, je pense particulièrement au Canada, où il y a un autre Français. Est-ce qu'il y a des mots qui ont disparu chez eux et qui existent toujours chez nous ?
Alors, il y a plutôt des mots qui ont disparu chez nous et qui existent encore chez eux. Hein, et par exemple, je ne sais pas, dans la francophonie, quand on dit « siester », je l'ai utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire « faire la sieste », on ne l'utilise plus, mais il est encore utilisé. Hein, quand on dîne au Québec, il ne faut pas se tromper, c'est à midi.
Ah oui, c'est vrai. On lunch,
sinon,
on
si lunch. Vous êtes invité à dîner et que vous arrivez à 19h, ça ne marche pas du tout. Et par conséquent, c'est là où la rousse d'hier est importante.
Merci beaucoup. À tous. Ben justement, c'est le titre de ce livre, Les mots disparus de Pierre Larousse, et c'est chez Larousse, Alain Bougrain-Dubourg, Les lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes, et Hebdo, le premier numéro en kiosque aujourd'hui.
3,50, ça coûte pas cher.
Et on croise les doigts, et bravo à tous nos futurs journalistes scientifiques. Bravo à vous.
Sûr.
Et bon week-end.